À quelques jours de là, Gérard était de retour à Paris, et le tourbillon de la vie le saisissait de nouveau. Le soin de ses affaires lui prit d'abord quelque temps. Il dut chercher ses amis et renouer les relations rompues, puis le courant de l'habitude l'entraîna, et la pensée de retourner à D ne se présenta presque plus à lui. Ce n'est pas qu'il eût oublié Thérèse, mais les mêmes motifs qu'il avait décidé à la quitter ne se rencontreraient-ils pas ? Pendant les premières semaines, il éprouvait chaque jour, vers 7 ou 8 heures, un sentiment de tristesse qui le ramenait en esprit en Allemagne. C'était l'heure où il avait coutume d'aller au jardin, et il revoyait Thérèse qui courait au-devant de lui. Le vent de sa course agitait ses rubans bleus, et elle souriait. Souvent alors, il tirait le médaillon de son étui et le regardait. Quelquefois même, il l'embrassait, comme eût fait un amoureux de 20 ans. Si quelqu'un de ses amis l'eût surpris dans ces moments-là, Gérard n'aurait plus su où se cacher. Au bout d'un certain temps, cette impression s'affaiblit, et 3 mois ne s'étaient pas écoulés qu'elle était presque entièrement effacée. Gérald était à Paris et en subissait l'influence. « Pauvre Thérèse, » disait-il quelquefois en fumant son cigare le soir sur le boulevard. Un ami passait et Gérard oubliait Thérèse. À cette époque, par désœuvrement et aussi peut-être par imitation, Gérard était en fort grande relation avec une jeune personne qui appartenait au corps du ballet de l'opéra. Mademoiselle Clotilde, c'était son nom, avait ses grandes et petites entrées chez Gérard et en usait fort librement. Un jour qu'elle furetait partout comme un jeune chat, elle mit la main sur un étui en peau de chagrin qui renfermait un portrait. Gérard voulut lui faire remettre ce portrait, qui n'était autre que celui de Thérèse, dans le tiroir où Mademoiselle Clotilde l'avait découvert. Elle n'y voulut jamais consentir, et il en résulta une querelle, à la suite de laquelle, et dans un mouvement de dépit, Mademoiselle Clotilde lança au feu l'étui et le portrait. Gérard se jeta à genoux devant le foyer et écarta les tisons pour sauver la miniature s'il était temps encore. Il trouva la petite plaque d'ivoire un peu endommagée par l'action du feu, mais l'image de Thérèse, sauf quelques légères atteintes, n'avait que faiblement souffert. Gérard porta cette image à ses lèvres avec un mouvement passionné, puis se tournant vers la danseuse, il lui montra la porte avec un visage si terrible qu'elle sortit précipitamment sans répondre. Tous les souvenirs de D avaient afflué vers son cœur avec violence, comme les eaux d'une rivière qui a rompu ses digues. 2 jours après cette scène, Gérard reçut une lettre qui portait le timbre de D. Il l'ouvrit avec un secret effroi et y trouva ces mots. « Thérèse à son ami Rodolphe. Je suis bien malade et il me semble que je vais mourir. Si vous vous souvenez de celle qui vous a tant aimé, hâtez-vous. Cela m'attristerait de m'en aller avant de vous avoir embrassé. Si je meurs sans vous avoir revu, mon cœur vous enverra son dernier soupir. » Gérard eut comme un vertige. Tout ce que Thérèse lui avait dit sur l'influence mystérieuse qu'elle attribuait au portrait se retraça dans son esprit en caractère de feu. « Je ne la reverrai plus. Je ne la reverrai plus, » répétait-il en retournant la lettre dans tous les sens. Le soir même, il partait pour l'Allemagne à moitié fou. S'il avait rencontré Clotilde, il l'aurait tuée. Dans l'espèce d'égarement où l'avait jetée cette lettre, il attribua à cette fille la maladie qui mettait en si grand péril l'existence de Thérèse. Dès qu'il fut arrivé à D, il courut au petit jardin. Comme il passait devant l'église des Jésuites, il entendit le glas d'une cloche et il frissonna de la tête aux pieds. « Ah, mon Dieu !» dit-il, « Thérèse est morte !» Il précipita sa course et toucha enfin à cette porte verte qu'il avait si souvent franchie le cœur joyeux. Il la poussa, le jardin était désert, il le traversa en courant et entra dans la maison. « Ah, monsieur !» lui dit un vieux domestique, « montez vite !» Gérard grimpa l'escalier aussi rapidement que le lui permettaient ses jambes qui tremblaient sous lui. Il ne comprenait pas le sens de cette exclamation. Était-il arrivé seulement pour recevoir le dernier soupir de Thérèse ou l'attendait-on pour la sauver ? Quand il fut entré dans la chambre de Thérèse, un pitoyable spectacle frappa ses yeux. La pauvre fille était couchée sur son lit, les mains jointes et le visage blanc comme un cierge. Madame de Lubnor pleurait la tête cachée entre les draps du lit. Une sueur froide mouilla les tempes de Gérard. « Morte ? » s'écria-t-il. Madame de Lubnor releva la tête à ce cri et reconnut Gérard. « Ah ! » dit-elle en levant les mains au ciel, « nous n'avons plus d'espoir qu'en vous. » Gérard comprit que Thérèse vivait encore. Il s'approcha du lit et tomba à genoux. 1000 sensations diverses agitaient son cœur. Il n'aurait jamais pu dire ce qu'il pensait. Il resta quelques minutes immobile, regardant Thérèse qui ne bougeait pas, Il ne pouvait ni parler, ni pleurer, il étouffait. Madame de Lubnor lui raconta que Thérèse souffrait assez fréquemment de la tête depuis un mois ou deux. « Mais rien, ajouta-t-elle, ne pouvait faire croire qu'elle fût en danger de mort. Après votre départ, elle ne montra aucun changement dans son humeur et dans son genre de vie. Seulement, elle ne souriait presque plus, et le coloris de ses joues ne reparut pas, comme si votre absence eût enlevé tout le printemps de son cœur et de son visage. Elle chantait souvent et se promenait beaucoup, dans le jardin surtout, où je l'entendais quelquefois causer seule avec animation et à demi-voix. Chaque fois qu'on frappait à la porte, elle tressaillait et faisait le mouvement de se lever pour courir, comme elle en avait l'habitude quand vous arriviez. Puis elle secouait la tête tristement et restait assise sans parler. Quand je prononçais votre nom, en essayant de lui dire que vous reviendriez quelques jours, elle me regardait avec une expression de douleur si navrante que j'y renonçais. Je la surpris tout dernièrement, travaillant avec une activité fiévreuse un certain ruban de soie blanche sur lequel elle brodait en bleu deux initiales, un R et un T. « C'est ma ceinture de noces, » me dit-elle avec un singulier sourire. « Tu la lui donneras, s'il la demande. » Elle ne travaillait jamais à cette broderie que sous le berceau, où elle vous attendait chaque soir du temps de votre séjour à D. « Voyez, le thé n'est pas achevé. » Et Madame de Lubnor tira d'une boîte à ouvrage, pour le montrer à Gérard, un ruban sur lequel l'aiguille était encore attachée. Un matin que j'avais laissé Thérèse au salon, reprit Madame de Lubnor, j'entendis tout à coup un grand cri. J'accourus et je trouvai Thérèse renversée, toute blanche, roide et les yeux fixes. On l'emporta dans sa chambre et on eut beaucoup de peine à la faire revenir, encore ne fût-ce que pour peu d'instants. Elle demanda une plume et du papier, vous écrivit et cacheta la lettre en priant qu'on l'acheta à la poste sans tarder. Le messager partit et elle le suivit des yeux jusqu'à la porte, après quoi elle laissa retomber sa tête sur l'oreiller, ferma les yeux et ne remua plus. Le médecin qu'on était allé chercher ne put jamais la tirer de cet état. Elle est comme morte depuis ce moment. Nous savons seulement qu'elle existe. Gérard avait écouté ce récit, les yeux fixés sur Thérèse. Il craignait de parler de peur d'éclater. Cependant, il demandait à Madame de Lubnor l'heure et le jour précis où Thérèse avait poussé ce grand cri et qui avait mis toute la maison en rumeur. Il apprit par sa réponse que le jour et l'heure concordaient avec la découverte que Mademoiselle Clotilde avait faite du portrait de Thérèse. Gérard se leva en chancelant. « Elle m'avait dit qu'elle en mourrait, » murmura-t-il. Il prit tout à coup les mains de Thérèse entre les siennes et, sans savoir ce qu'il faisait, dans un mouvement d'exaltation et de désespoir, avec des cris, des larmes et des baisers, il se jeta sur le corps inanimé de la pauvre fille. Il était comme fou et la suppliait de ne pas mourir. Comme il l'étreignait dans ses bras, il sentit un souffle léger passer sur ses lèvres. Il se releva d'un bond. « Elle respire !» s'écria-t-il. Le médecin, qu'on fit venir en toute hâte, trouva un certain changement dans l'état de Thérèse. « Oui, » dit-il, le cœur bas, « tout dépend de la crise qui suivra son réveil. » Vers le soir, Thérèse ouvrit les yeux, regarda autour d'elle, vit Gérard, poussa un cri et lui tendit les bras. Il s'y jeta et, presque au même instant, elle éclata en sanglots. « Elle est sauvée !» s'écria le médecin. « Ah, ne nous quittez plus !» dit Madame de Lubnor en s'attachant aux mains de Gérard. Mais ce n'était pas tout que de lui avoir rendu la santé du corps. Il fallait encore rendre à Thérèse la santé de l'esprit, et là n'était pas le moins difficile. Sa convalescence fut assez longue et demanda beaucoup de ménagement. L'ébranlement qu'il avait mis aux portes du tombeau avait laissé des traces profondes qui ne pouvaient être effacées en quelques jours. La sensibilité de Thérèse, déjà excessive, était surexcitée. La moindre émotion la faisait pâlir ou trembler. Elle était, en quelque sorte, comme une harpe dont les cordes tendues résonnent au plus léger vent. On aurait dit que la vie, un instant chassée de ses lèvres, avait peine à s'y rasseoir. Gérard, qui passait auprès d'elle ses journées entières, remarqua que Thérèse éprouvait des troubles qui ne lui étaient pas habituels. Il la surprenait souvent la tête dans ses mains, immobile et pensive, comme si elle eût écouté au fond de son âme le bruit d'un travail mystérieux. Elle regardait en dedans, comme elle disait elle-même, et analysait ses songes pour y découvrir quelque chose de réel. « Je vois quelquefois des lueurs, » lui dit-elle un soir, « mais je ne vois pas encore de clarté. Puis les lueurs s'effacent et les ombres en reviennent. » Dans les premiers jours qui suivirent son réveil, Thérèse ne voulait pas se séparer de Gérard. Elle craignait toujours qu'il ne s'en allât pour ne revenir jamais. Il fallait employer 1000 promesses et presque la ruse pour la déterminer à quitter sa main. Elle la retenait longtemps emprisonnée entre les siennes et le suppliait de ne pas partir. Madame de Lübner imagina de faire préparer une chambre que Rodolphe avait occupée autrefois et qui n'avait plus été ouverte depuis la mort de ce jeune homme. « J'ai fait mettre, dit-elle à sa nièce, des fleurs dans les vases et des bougies aux flambeaux qui sont dans la chambre verte. Dès ce soir, il pourra s'y installer. » Mais à leur grande surprise à tous deux, Thérèse, bien loin de témoigner de la joie, laissa voir une sorte de mécontentement. Elle n'insista plus pour que Gérard restât dans la maison. À ce mot de chambre verte, un nuage passa sur son front, et avec une vivacité dont elle ne donnait presque plus de preuve, elle courut à l'étage supérieur et enferma la porte à clé. Bien sûr que personne n'y entrerait plus sans sa permission, elle redescendit au salon et tendit la main à Gérard. « Adieu donc, lui dit-elle, à demain. » Sa voix n'avait rien perdu de sa douceur et son regard de sa tendresse, mais elle ne parlait plus pour le retenir. Un autre changement s'était opéré en elle. Thérèse n'appelait plus Gérard du nom de Rodolphe, elle ne l'appelait pas Gérard non plus, elle l'appelait mon ami. Ce mot qui ne précisait rien, répondait-il à un doute? Était-ce dans son esprit une de ces lueurs indécises qui annoncent l'aurore naissante et précèdent le jour? Gérard l'espérait, mais il n'osait pas le croire encore. Il craignait surtout que la lumière se faisant dans cette intelligence, il ne perdît Thérèse sans retour. Il avait, sans se l'avouer, toutes les timidités et toutes les peurs de l'amour véritable. Thérèse voulut voir un jour le médaillon qu'elle lui avait donné. Elle reconnut les traces du feu qui en avait légèrement endommagé l'ivoire. Encore quelques secondes et l'image, altérée déjà, disparaissait tout à fait. « Je sais maintenant pourquoi j'étais malade, » dit-elle, et elle lui rendit la miniature sans demander d'explication. Un autre jour qu'ils étaient ensemble dans le jardin, Thérèse prit le bras de Gérard et fit quelques tours d'allée. Une teinte rose adoucissait la pâleur de ses joues. Son front avait retrouvé toutes les grâces de la jeunesse et de la santé. Elle ne disait rien et cueillait, chemin faisant, des fleurs à tous les buissons. Après qu'elle eut fait un bouquet, elle soupira. « Que j'en ai déjà cueilli de ces fleurs, » dit-elle. « Celles-ci ne sont plus celles que j'aimais hier et les fleurs de demain ne seront plus celles que j'aime aujourd'hui. » Ses yeux rêveurs regardaient longtemps le bouquet, comme si elle eût voulu lui demander le secret des pensées qui l'obsédaient. Puis elle s'arrêta et se tournant vers Gérard. « Que deviennent les fleurs de l'an dernier ?» lui demanda-t-elle. « Elles meurent, » répondit Gérard. Thérèse attacha sur lui ses yeux tendres et voilés. « Ah oui, » reprit-elle, « elles s'en vont. Ce ne sont plus les mêmes qui reviennent, et ce sont toujours des fleurs. » Ses regards brillèrent tout à coup. Elle prit la main de Gérard et la serra. « C'est comme vous, » s'écria-t-elle, « c'est vous que j'aime. Et ce n'est pas vous que je pleure. C'est le même amour, et ce n'est plus la même fleur. » Gérard ne pensait plus à Paris. Le monde n'avait plus d'autre limite pour lui que les frontières du petit jardin où il rencontrait Thérèse. Quand il se rappelait le jour où elle avait failli mourir, il frissonnait encore et s'étonnait d'avoir pu, par son indifférence et son égoïsme, faire souffrir une aussi aimable fille. Il se la représentait heureuse et gaie, dans quelque coin de terre, avec lui, et se promettait bien de ne plus écouter jamais que la voix de son cœur et non pas celle de la raison. Il était assez riche d'ailleurs pour qu'on ne l'accusât pas de chercher une satisfaction d'intérêt dans son mariage avec Thérèse. Si donc elle l'aimait, pourquoi sacrifiera-t-il son bonheur à de misérables considérations? Mais la question était justement qu'elle l'aima et qu'elle ne crut pas épouser Rodolphe en épousant Gérard. Thérèse était comme un voyageur qui suit dans l'ombre un chemin au bout duquel s'ouvre un précipice. Le précipice franchi, c'est le pays de Canaan. Mais un faux pas peut jeter le voyageur au fond du gouffre. Thérèse franchira-t-elle ce précipice? Un soir que Thérèse était assise dans le jardin, traçant d'une main distraite des lignes sur le sable, Gérard lui proposa de faire une promenade dans la campagne. Elle se leva et lui prit le bras. « Bien volontiers, » dit-elle, « j'ai comme la fièvre. Le grand air la dissipera. » Elle avait en effet le visage coloré et les yeux brillants. Gérard s'aperçut que sa main tremblait. Vous est-il arrivé quelque chose ce matin ? Lui demanda-t-il.
Non, reprit-elle.
Ma tante range le linge, et vous savez que lorsqu'elle met la main aux armoires, elle n'en finit plus. Je suis restée seule. J'ai fait un peu de musique, j'ai lu, et le hasard m'a fait tomber sur un livre de chevalerie. Il était question d'un paladin qui, d'aventure en aventure, était arrivé dans un certain royaume dont je ne sais plus le nom. Ce royaume avait pour propriété singulière de changer en fantôme quiconque en passait les frontières. On y voit les gens qu'on a connus en rêve, et ils vous parlent d'événements qui n'ont jamais eu lieu, mais dont on se souvient. J'ai fait cette réflexion, que je suis un peu la parente de ce paladin, et que j'habite ce royaume peuplé de fantômes.
« Vous ? » s'écria Gérard, inquiet de la tournure que prenait l'entretien.
« Oui, moi. Et ce n'est pas si fou ce que je dis là. J'ai beaucoup pensé depuis que j'étais malade, et j'ai bien vu qu'on ne me parlait pas comme à tout le monde. J'ai des tressaillements extraordinaires en moi. Les mots me semblent avoir une signification qu'ils n'avaient pas, et des choses auxquelles je ne prenais pas garde autrefois me bouleversent à présent. Tenez, l'autre soir, le vent soufflait. Les feuilles d'un peuplier tombaient une à une dans la fontaine. Je les regardais, et il me semblait que c'était de pauvres âmes qui s'en allaient. Les larmes me sont venues aux yeux. Moi aussi, j'ai failli m'en aller. M'auriez-vous pleuré ?
Oui, n'est-ce pas ?
La voix de Thérèse et ses paupières gonflées indiquaient assez que son cœur était plein de sanglots. Gérard avait la gorge prise comme dans un étau. Il se pencha sur les mains de Thérèse et les couvrit de baisers.
« Oh, je vivrai !» reprit-elle. « Je ne m'en irai pas. Mais tenez, je ne vous dis pas tout. J'ai bien vu que le médaillon que je vous avais remis était un peu détérioré. D'autres mains que les vôtres l'ont touché. D'autres yeux l'ont regardé. Savez-vous pourquoi je ne vous ai pas interrogé ? C'est parce que je craignais d'apprendre que vous avez dans votre pays une autre Thérèse que vous aimez. J'ai bien un autre vous, moi. » Gérard pressa le bras de sa compagne doucement et lui parlant tout bas comme à un malade qu'on interroge. « En êtes-vous bien sûr ? » lui dit-il. Elle s'arrêta court et secoua la tête. « Non, plus à présent, » répondit-elle. « Et cependant ?» Elle se tut de nouveau, puis frappant du pied. « Tenez, il y a comme un bâillon devant ma bouche, comme un voile devant mes yeux. Oh, ils tomberont, il faudra qu'ils tombent. » Le hasard de leur promenade avait conduit Gérard et Thérèse à la porte d'un petit cimetière dans lequel Madame Van B avait voulu être enterrée à cause des souvenirs de famille qui s'y rattachaient. Une tombe de marbre très modeste, avec une plaque sur laquelle son nom était gravé, indiquait la place où elle reposait. Quelques saules l'entouraient, et un gros lierre d'Écosse la couvrait de son feuillage d'un vert sombre. Gérard fit entrer Thérèse dans ce cimetière. À la vue des croix qui dressaient leurs bras noirs au milieu des herbes, Thérèse s'arrêta. Elle regarda autour d'elle, lut quelques noms inscrits sur le bois et sur la pierre, et se serra contre Gérard.
« Pourquoi toutes ces croix ? » dit-elle. « Et pourquoi tous ces noms ? Ils me font peur. »
Gérard la força de marcher avec lui.
« Ce sont les noms de ceux qui sont partis, » dit-il, « et ces croix sont pour avertir qu'ils ne reviendront plus. »
Thérèse devint toute pâle.
« Oh, qu'il fait triste ici, » reprit-elle.
Gérard lui montra des doigts quelques-unes des tombes à demi cachées sous les saules et les cyprès.
« Regardez, » lui dit-il, « ces noms que vous voyez là ne vous rappellent-ils à rien ?»
Thérèse lut au hasard deux ou trois inscriptions et tressaillit.
« Dorothée, Amélie, Augusta, mes amis d'autrefois, là, Frédéric, ici, Joseph, voilà donc pourquoi je ne les voyais plus » s'écria-t-elle. De grosses larmes jaillirent de ses yeux. « Pauvre Amélie, je m'en souviens, » ajouta-t-elle. « Elle était si vive et si gaie. Et Dorothée, qui m'aimait tant, partie tout ensemble. Ah, pourquoi m'avez-vous amené ici ? Et le bâillon, et le voile, ce bâillon qui est sur votre bouche, ce voile qui est devant vos yeux, ne voulez-vous pas qu'il tombe ?» répondit Gérard. C'était l'épreuve décisive. Il la faisait en tremblant. Tout en parlant, Gérard avait conduit Thérèse vers le tombeau de sa mère. Il la fit asseoir sur un coin du marbre, et lui prenant la main.
« Non, elles ne sont pas parties, » dit-il. « Celles que vous avez aimées sont là. Elles sont mortes. »«
Mortes ?» ajouta Thérèse. « Mortes ?»
Elle couvrit son visage de ses deux mains, comme pour ne pas voir la lumière qui se faisait autour d'elle. Elle se mit à pleurer. On aurait dit que son cœur éclatait. Mais Gérard, écartant ses mains, lui fit lire sous les feuilles du lierre le nom de Madame Van B. « Ma mère !» s'écria la jeune fille. Et elle tomba à genoux, les mains jointes, au pied du tombeau. C'était pour elle comme si sa mère fût morte le jour même. Le coup l'avait renversée, et son cœur se fondait à la fois en sanglots et en prières. Gérard la regardait immobile, debout auprès d'elle. Puisque Thérèse priait, c'est que Thérèse était sauvée. Au bout de quelques minutes, elle leva les yeux et lui tendit la main. « Le voile est déchiré, » dit-elle. « Vous m'avez appris à pleurer ma mère. Merci. » Elle promena lentement ses regards dans le cimetière comme si elle eût cherché une autre tombe. On voyait qu'une question était suspendue à ses lèvres. Deux fois, elle ouvrit la bouche et regarda Gérard comme si elle allait parler. Mais elle se tut, et cachant son visage parmi les touffes du lierre, elle se prit à pleurer de nouveau. Ses larmes, cette fois, n'étaient pas données à sa mère. Thérèse et Gérard quittèrent le cimetière au bras l'un de l'autre sans parler. Gérard sentait bien que son sort allait se décider, mais une sorte de pudeur l'empêchait d'interroger sa compagne. Il voulait laisser à sa douleur cette pauvre fille qui venait de retrouver sa mère et qui la trouvait morte. Quand elle fut chez elle, Thérèse témoigna le désir d'être seule. Il semblait qu'elle voulût causer avec elle-même, après ce long silence qu'elle avait gardé. « À demain, » dit-elle à Gérard, et elle s'éloigna d'un air pensif en le laissant avec Madame de Lubnor, à laquelle il raconta tout ce qui venait de se passer. Gérard passa toute la nuit à se promener dans la ville, ramené toujours par une force invincible vers la petite maison qu'habitait Thérèse. Une lampe brillait derrière la fenêtre de cette chambre verte, où elle n'avait pas voulu que Gérard entrât. On voyait son ombre passer devant les rideaux blancs. Une fois, son visage se colla contre la vitre et y resta longtemps. Gérard, caché dans la nuit, la regardait. Que faisait-elle à cette heure dans cette solitude? Y demandait-elle des conseils aux souvenirs qui l'habitaient? Le lendemain, Gérard arriva chez Thérèse à l'heure accoutumée. Il la trouva dans le salon et tout en noir avec Madame de Lubnor. Il n'y avait plus ni robe blanche ni ruban bleu. L'expression de son visage était changée. Thérèse était comme transfigurée. Gérard ne reconnaissait ni son sourire ni son regard. L'accueil même qu'elle lui fit était si nouveau que Gérard ne put en soutenir la réserve et l'apparente froideur. Excité par la fatigue et les rêves de la nuit précédente, il crut voir la condamnation de ses espérances et courut au-devant de cet arrêt dont son cœur ressentait déjà les atteintes. « Je viens vous faire mes adieux, » dit-il d'une voix qui tremblait. « Vous partez ?» demanda Thérèse. « Oui, je pars, » reprit-il. « Je n'ai plus rien à faire ici. Dieu m'est témoin que j'aurais voulu y rester toujours, mais je ne suis pas celui dont vous aimiez le souvenir. Faut-il que je sois un étranger pour celle auprès de qui j'ai passé tant d'heures, les plus belles de ma vie ? J'ai peur que vous ne me pardonniez pas d'avoir si longtemps accepté un nom qui n'est pas le mien, et cette pensée m'est odieuse. Ah, si vous étiez encore tel que je vous ai connu, mais c'est impossible. C'eût été trop de bonheur. Serez-vous plus heureuse demain que vous l'étiez hier ? Je ne sais, j'ai fait mon devoir. Votre esprit est libre, Thérèse. Adieu. » Gérard était à bout de force. La jeunesse et l'amour faisaient explosion en lui. Il se retourna pour ne pas laisser voir le bouleversement de son visage et fit un pas vers la porte. « Gérard !» s'écria Thérèse. Gérard s'arrêta. Les yeux de Thérèse rayonnaient d'intelligence et d'amour. « Mon nom !» dit-il, et d'un bond, il tomba à ses pieds. « Ah, mes pauvres enfants !» s'écria Madame de Lubnor. « Je n'y tiens plus, il faut que je vous embrasse tous deux. » À quelque temps de là, un jeune homme, qu'on voyait souvent sur le boulevard, arrêta un de ses amis à la sortie de l'opéra. « Eh bien, sais-tu la nouvelle ?» lui dit-il. « Laquelle ? Il y en a tant. Gérard, tu sais, ce pauvre Gérard qui était si gai et qui perdait toujours où l'on se connaît. Est-ce qu'il est mort ? Ah bah oui, il s'est marié. Ah mon Dieu, et avec qui ? Avec une petite Allemande qu'il a rencontrée, je ne sais où, sur les bords du Rhin. Voilà où mènent les voyages. Amen, dit l'autre. Ainsi s'achève Thérèse, souvenir d'Allemagne, d'Amédée Achard.